RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous toutes. Je suis très heureux de vous retrouver, toujours un grand plaisir de vous accueillir dans De quoi je me mail le dimanche matin, vous le savez, à la radio, sur RMC, mais aussi en podcast audio dès le vendredi sur l'appli RMC, sur votre smartphone, et puis en vidéo sur 01tv.com, la chaîne YouTube de 01tv, et sur les box au menu de ce De quoi je me mail cette semaine. Tout à l'heure, on découvrira une nouvelle marque de smartphone. Connaissez-vous Vivo? Et pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop qui est Vivo, mais ce n'est pas un rigolo dans le monde du smartphone. Vivo est le cinquième ou sixième constructeur de smartphones au monde. Ils sont deuxièmes en Chine, ils sont premiers en Inde, enfin c'est vraiment des volumes impressionnants. Et Vivo arrive en Europe, et notamment en France. Je recevrai le vice-président France de Vivo dans quelques minutes, qui nous expliquera sa stratégie. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de ce De quoi je me mail au club de la presse IT qu'on va attaquer dans un instant avec le hashtag DQJMM sur Twitter, et puis bien sûr rejoindre la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là, bienvenue. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT. C'est Emmanuel Paquette, fidèle au poste, qui est avec nous cette semaine. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Voilà, et on fait une grosse bise à Jean-Sébastien Zanky, dont c'était la dernière, la semaine dernière, ouais. On l'a dit. Voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Il va nous manquer, tu vas nous manquer, Jean-Sébastien. Emmanuel, il faut rester, hein, en revanche. Ouais.
Pour l'instant, en tout cas.
on va t'accrocher, je crois, à la chaise. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et on va commenter ensemble l'actu de cette semaine, et on va commencer par cet événement surprise qu'Apple nous a sorti de son chapeau. On a reçu une invitation il y a quelques jours de cela, le 10 novembre à 19h, à One More Thing, Emmanuel.
Oui, alors c'est étonnant, hein, parce que généralement Apple est plutôt avare de prise de parole dans une année. Là, on en est, je sais pas, à troisième ou quatrième prise de parole. Enfin, oui. C'est totalement inhabituel. Alors cette année aussi est inhabituelle, hein, avec le Covid, etc. Et donc là, on s'attend effectivement à savoir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter à nouveau. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plus probable, c'est quand même des nouveaux MacBook qui fonctionneraient avec une nouvelle puce. Donc c'est la puce Apple, hein, qui est basée sur une architecture ARM. Alors il y aurait, Bloomberg dit, trois types de produits qui pourraient en bénéficier. Un MacBook Air, dans un premier stade, et deux MacBook Pro de 13 et de 16 pouces, avec cette puce, donc encore une fois, qui serait la puce silicone d'Apple, basée sur une architecture ARM qui, je rappelle, est en train d'être achetée par Nvidia, donc... Ouais. Ce qui ne doit pas faire plaisir à Apple par ailleurs, hein, parce qu'ils voulaient vraiment travailler avec ARM pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on s'attend à minima à des annonces sur des nouvelles gammes de MacBook et peut-être de MacBook Air.
Donc ce fameux One More Thing, d'habitude on a toujours une petite indication, hein, sur les invitations Apple, hein, voilà, il y en a qui sont payés pour décrypter les, ouais, invitations, qu'on soit là, il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça déjà? Est-ce qu'on peut avoir d'autres surprises? Après, oui, on reviendra sur cette stratégie de ARM parce qu'elle est assez intéressante, mais on peut s'attendre à autre chose aussi ou pas?
Oui, alors il y a pareil, il y a une autre type d'attente, c'est les nouveaux AirPods. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveautés de ce point de vue-là. Donc on s'attend à ce qu'il y ait probablement un AirPod Lite, donc entrée de gamme, et un AirPod un peu plus cher, plus haut de gamme. Mmh. Donc attaquer le marché en fait avec deux types de prix. Donc c'est une des autres, disons, hypothèses, hein, parce que pour l'instant, on en est réduit à des hypothèses. Donc ça pourrait être un des gros éléments. Et puis, une des grosses annonces attendues depuis un certain temps déjà, c'est ce qu'on appelle les tags. Tu sais, c'est les, oui, c'est les AirPods, AirTags,
pardon. Ouais, ouais. Ces petits trackers, en fait, hein, Bluetooth, ça, ou avec une autre technologie qui permet de ne plus perdre en fait des appareils qu'on a dans la poche ou des choses comme ça.
Exactement, donc ça peut être les clés, effectivement, etc. Et donc on mettrait un petit poinçon dessus qui serait relié à son appareil, à son téléphone, ou à sa tablette. Et effectivement, si on les perd, on peut les géolocaliser pour essayer de les retrouver plus aisément. Donc ça fait partie aussi des pistes éventuelles sur lesquelles on attend des annonces d'Apple.
On revient sur, sans doute, hein, l'annonce qui sera faite, hein, concernant ces nouveaux Mac avec cette nouvelle architecture technique, ces nouvelles puces, ces nouveaux processeurs. Pourquoi Apple décide d'arrêter sa collaboration avec Intel, hein, puisque c'était Intel avant qui fournissait les puces? Pourquoi Apple change en fait de crèmerie et s'attaque en fait à cette nouvelle technologie, nouvelle structure?
Effectivement, on voit bien, enfin, ça a toujours été quand même dans l'ADN d'Apple de faire tout ce qu'ils pouvaient faire en interne.
Et ne plus être dépendant de fournisseurs.
Voilà, de fournisseurs. Un, déjà parce qu'ils préfèrent garder leur propre technologie à eux pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence, donc ça peut s'entendre. Deux, parce que généralement ça génère aussi des fuites quand on travaille avec des sous-traitants ou des fournisseurs. Ça, Apple n'aime pas trop, hein. On connaît la maison, ils sont hyper contrôle fric sur ce sur quoi ils peuvent travailler. Donc le fait de réduire le nombre de fournisseurs, ça réduit aussi le nombre de fuites éventuelles. Et c'est vrai que le processeur, ça devient quand même quelque chose d'extrêmement central dans la guerre en plus qui s'engage entre les États-Unis et la Chine. Hein. On voit que ça devient un élément extrêmement important d'indépendance technologique. Et donc Apple a effectivement envie de contrôler, si possible, le plus possible, ce type d'éléments, ce type de composants. Donc là, c'est basé quand même sur une architecture ARM, donc c'est pas totalement indépendant, hein, mais en tout cas, c'est basé sur des royalties donc, de cette société qui, encore aujourd'hui, est basée en Angleterre, propriété de SoftBank, le japonais qui est en train de le vendre. Donc on voit effectivement cette volonté de s'émanciper du côté d'Apple, de contrôler à peu près tout ce qu'ils peuvent contrôler. On l'a vu avec les modems 5G, puisque ça a été aussi un des éléments d'indépendance d'Apple. Ils ont racheté la branche modem 5G d'Intel voilà, pour être indépendant de Qualcomm.
Alors même s'ils font toujours beaucoup d'affaires avec Qualcomm pendant de nombreuses années, là, hein, visiblement,
oui, parce que
c'est très très long. Hein,
c'est long, exactement. Ils ont à peine intégré cette branche qui elle-même était en retard, hein, sur les modems. Donc pour l'instant, on reste sur des modems effectivement Qualcomm pour la 5G dans les iPhone 12. Donc effectivement, ça va prendre du temps. Mais on voit que la tendance est là, de s'émanciper et de rester totalement indépendant, technologiquement, de tous ces fournisseurs. Exactement.
À noter que ces processeurs ARM sont déjà dans la plupart des produits Apple que vous avez, hein, les smartphones, les iPads, etc.
Exactement.
Donc en fait, ça serait c'est une suite logique finalement. Hein.
C'est un prolongement, ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Mais ça nécessite malgré tout un nouveau macOS, enfin ça nécessite des changements importants aussi au niveau du soft. Hein,
exactement.
Parce que c'est pas la même structure, on va dire.
Exactement, surtout qu'effectivement il y a un nouvel OS hein, qui est en cours de test en ce moment, hein, qui est le macOS Big Sur, donc qui pourrait aussi être annoncé effectivement la semaine prochaine.
Et qui serait compatible justement avec
cette nouvelle architecture.
Avec cette nouvelle architecture.
Effectivement, parce que ça, c'est important de faire coïncider le soft et le hard. C'est quand même l'ADN d'Apple. Hein.
On pourra vivre ensemble cette keynote Apple sur 01 TV. Ça sera mardi soir. On prend l'antenne à 18h45 en direct sur tous les canaux, hein, que ce soit sur les box à la télé ou sur le web. On vous fera vivre cette keynote en direct qui s'annonce passionnante, bien sûr. Autre actu cette semaine, c'est la 5G qui, alors là, est dans les starting blocks, hein, on peut le dire. Emmanuel, on est à quelques jours d'un lancement de la 5G en France.
Exactement, puisque normalement, les autorisations vont être délivrées à partir du 18 novembre. Donc après, il faut avoir des autorisations, notamment de l'ANFR et puis des villes pour pouvoir allumer les antennes. Donc c'est là où il y a une forme d'incertitude, hein, puisque ça va dépendre un peu de chaque municipalité, de ses envies ou pas de pouvoir lancer cette 5G. Hein,
c'est-à-dire qu'il y a la municipalité, une municipalité qui dit non, par exemple, l'opérateur ne peut pas lancer la 5G alors qu'il y a déjà de la 4G.
Alors, normalement, la municipalité ne peut pas avoir le droit d'arrêter en fait, un déploiement. En revanche, ils peuvent trouver des biais pour essayer de ralentir l'ouverture d'un réseau 5G.
Mettre un peu des bâtons dans les roues au développement
des opérateurs. Et puis, par exemple, avoir des autorisations pour placer des antennes à tel endroit, puisqu'il faut renouveler aussi les autorisations de temps en temps pour placer des antennes 5G. Donc c'est effectivement, il peut y avoir une forme d'entrave administrative de la part des mairies, en tout cas de certaines mairies. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le sujet autour de la santé, de la consommation énergétique, c'est quelque chose qui monte autour du lancement de cette 5G. Donc, il y a quand même pas mal d'interrogations de savoir où et quand va être lancée cette 5G, dans quelle ville. Mais en tout cas, techniquement, le 18 novembre, c'est la date de départ éventuellement de la 5G dans des grandes villes en France, d'ici, on suppose, donc la fin du mois de novembre au plus tôt, puis tout début décembre au plus tard.
L'idée, c'est d'avoir une offre commerciale 5G pour tous les opérateurs, à ton avis. Tout le monde se positionnera sur la 5G d'ici la fin de l'année.
Je pense qu'ils sont obligés. Parce
Orange, SFR, Free, Bouygues.
Oui, parce que bon, on sait très bien que c'est les ventes de terminaux. On parlait de l'iPhone notamment, sont tirés par Noël. Donc si un opérateur lance la 5G et les autres non, forcément il va avoir un train de retard. Donc ils vont tous communiquer sur la 5G là dans les semaines qui viennent. La question, c'est de savoir la couverture de chacun des opérateurs, combien de villes ils couvrent.
On n'a pas des petits scoops là-dessus, on n'a pas d'informations,
alors, Orange,
ils sont très secrets.
Ouais, très secrets quand même, hein, pour le coup, parce que je pense que ça va être un des arguments marketing de masse de ces opérateurs, de dire, nous on couvre déjà tant de pourcents de la population et tant de grandes villes, pour que ce soit un argument marketing fort de cette fin d'année, pour que les gens
Toucher un maximum de clients aussi, parce que si on est dans une zone couverte par la 5G...
Exactement, et puis pour les terminaux haut de gamme, comme par exemple l'iPhone, le dernier iPhone, c'est de refaire en sorte que des abonnements se pérennisent et repartent et qu'on tienne comme ça des clients pendant plusieurs mois.
Et qu'on augmente les prix aussi accessoirement.
Alors ça va être une des autres questions.
Ça va être l'une des batailles de cette fin d'année.
Exactement.
Aussi.
Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les opérateurs vont pouvoir augmenter les prix sur les forfaits 5G, sachant que Free a plus ou moins annoncé qu'eux étaient prêts à refaire le coup de la 4G, c'est-à-dire donner la 5G au même prix que la 4G. Donc bon, on va voir, hein, mais ça va être une des grosses batailles commerciales de cette année.
On peut s'attendre peut-être à une surprise, non, du côté de Free, qui risque d'annoncer une couverture assez impressionnante en 5G, parce qu'on sait qu'ils, depuis de nombreux mois, ils préparent en fait leur... leur mise à niveau de, leur, de leurs équipements, hein, qui sont relativement récents et qui pourraient passer assez facilement de la 4G à la 5G.
Oui, c'est ça. Et surtout sur une bande de fréquence basse.
Sur une bande de
fréquence
qui serait basse.
Les 700 MHz, c'est donc qui permettrait de couvrir tout de suite beaucoup de population.
Alors voilà, le problème, c'est qu'on dit que c'est pas tout à fait la vraie 5G, hein, ça.
C'est 5G, ça. Alors, on sent déjà qu'Orange, SFR, etc. Sont prêts à répliquer sur les deux arguments. Hein. Un, le prix. Donc, ils sont prêts déjà, visiblement, à s'aligner sur le prix si Free commence à casser les prix. Mmh. Et deux, sur, effectivement, fausse 5G contre vraie 5G. Donc, ça risque d'être tendu sur cette fin d'année. Hein.
Ça va être chaud. Autre secteur qui va être bouillant, c'est celui du jeu vidéo. Hein. On le sait, on va vivre une année exceptionnelle, une fin d'année exceptionnelle. Ouais. On va jouer en confinement, les amis. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, évidemment, nouvelle PlayStation 5 hein, qui arrive là dans quelques jours. Nouvelle Xbox aussi. Deux nouvelles Xbox qui arrivent là aussi, je crois, la semaine prochaine. Et puis, de l'autre côté, Nintendo qui n'annonce rien, qui déroule en fait sa stratégie Switch. Et tout va bien pour Nintendo, finalement.
Ouais, exactement, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils ont dépassé les 68 millions de consoles Switch vendues. Et ils estiment que fin mars, donc quand leur année fiscale se termine, ils seront à 80 millions de Switch vendus. Donc c'est énorme, c'est plus que la NES à son époque. C'est un énorme succès pour Nintendo qui a vu son bénéfice tripler là sur cette fin de trimestre. Donc c'est vraiment pour eux, en fait, le temps joue en leur faveur. Pas besoin de sortir une nouvelle console, celle-ci se porte très très bien. Notamment grâce à deux jeux, hein, donc il y a les Super Mario, qu'on connaît tous, puis surtout le dernier Animal Crossing, qui est un véritable carton. Hein. Aujourd'hui, par exemple, en France, selon les chiffres du CEL, il est en troisième position des meilleures ventes, derrière FIFA et
alors qu'il
Mario.
Est sorti en plein confinement, première partie.
C'est ça.
Rappelez-vous, mars-avril. Hein.
Mars-avril, voilà. Donc toujours numéro 3 des ventes. Alors FIFA est très loin devant, hein, parce que bon, FIFA, c'est la star.
Et puis c'est sur toutes les consoles.
Sur toutes les consoles, mais effectivement, c'est le gros carton, avec Mario qui continue de bien se vendre aussi. Donc là, on en est à 26 millions de jeux Animal Crossing vendus dans le monde, donc New Horizon, le dernier épisode. Et donc, c'est un carton plein pour Nintendo, que ce soit sur sa machine, et puis sur ses titres qui placent régulièrement dans le top 5 ou le top 10.
Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle Switch bientôt, un peu plus puissante, peut-être pour rattraper l'écart monstrueux technologique qu'il y aura entre les nouvelles consoles next-gen et la Switch?
Alors, Nintendo a toujours dit qu'ils n'aient jamais la course à la technologie. Ça n'a jamais été leur truc. Leur truc, eux, c'est le jeu. Le jeu, le fait de pouvoir s'accrocher au jeu et de pouvoir jouer le plus souvent possible, tout seul ou en famille.
Mais c'est vrai qu'ils communiquent jamais sur la puissance d'une console.
Ça n'a jamais été leur truc. Ouais. Non. Après, il y a des caractéristiques techniques du style d'avoir une console qui soit fixe et portable à la fois. Ce que fait aujourd'hui ni Sony, ni Microsoft.
C'est ça qui est innovant, en fait.
Exactement.
C'est ça qui est innovant.
Donc on est plus sur la pensée, le jeu et la façon de jouer avec une console que la guerre à la capacité de traiter des images en très haute définition, etc.
Et finalement, ça paye.
Ça paye. Ouais. Ouais, exactement.
On enchaîne avec un tout autre sujet. Vous le savez qu'il y a ce vrai débat actuellement hein, de la fermeture des librairies. Avec une levée de bouclier de la part des libraires, on peut le comprendre, hein, qui se retrouvent à ne pas pouvoir vendre de livres, alors que pendant ce temps-là, vous avez les plateformes américaines et tous les sites de e-commerce qui peuvent vendre des livres. L'État essaie de se dépatouiller tant bien que mal avec tout ça. C'est compliqué hein, en pleine période de confinement, de contenter tout le monde, hein,
ouais,
c'est clair.
Exactement. Ouais.
Et là, ils veulent visiblement donner un petit coup de pouce aux librairies indépendantes. Hein.
Oui, exactement. Alors, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui, dans un premier temps déjà, a fait baisser les frais de livraison par la poste quand on commande en click and collect, par exemple, ou en livraison un livre pour qu'il arrive chez soi. Donc là, il y a eu une baisse des prix déjà qui a été donc poussée par le gouvernement. Donc ça, c'était une première étape. Et là, la deuxième étape, c'est que le gouvernement est prêt à prendre à sa charge les frais de livraison réduits, qui étaient déjà réduits, jusqu'à hauteur de quasiment la totalité, hein, puisque le libraire aura payé qu'un centime pour une livraison, puisqu'on ne peut pas faire gratuit, puisque sinon c'est une aide totale d'État, un soutien de l'État.
Possible.
Donc c'est un coup de pouce, encore une fois, aux libraires, sachant qu'aujourd'hui, sur les ventes Click and Collect et ventes en ligne, ils font entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires. Donc cette petite aide pourra les aider éventuellement à aller jusqu'à quasiment 30-35% de leur chiffre d'affaires. Alors, donc ça veut dire qu'ils vont quand même perdre une partie, une grosse partie de leur activité, mais quand même, ils pourront assurer peut-être jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, il y a une autre question plus juridique qui se pose, hein, c'est que cette aide de l'État français, est-ce que la Commission européenne ne va pas leur requalifier en aide d'État ? Donc ça, c'est une vraie question, parce que du coup, il y a deux sujets. C'est déjà une aide d'État pour les libraires indépendants. Et le deuxième sujet, c'est que cette aide ne va qu'aux libraires indépendants, donc pas aux autres. Donc il pourrait y avoir aussi...
Elle pourrait très bien aller à Amazon, par exemple.
Par exemple,
ou à la FNAC.
Exactement, ou à la FNAC. Donc il peut y avoir une forme de discrimination concurrentielle. Il est possible qu'il y ait des recours, donc on va voir ça dans les semaines et mois qui viennent, mais ça peut être aussi un sujet de conflit assez fort entre des réseaux de distribution libraires indépendants d'un côté et grandes surfaces éventuellement, et peut-être même libraires en ligne de l'autre.
Oui, sujet complexe actuellement, mais bien évidemment, il faut lire, surtout en ces périodes de confinement où parfois on a un petit peu plus de temps que d'habitude, hein, on n'est plus dans la turpitude de notre quotidien, et c'est vrai que prendre un bon bouquin, c'est toujours sympa. Alors, lire, c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui est SVOD, hein, on le voit, hein, j'imagine que tous les services de SVOD se frottent les mains avec ce deuxième confinement. Alors, il y a ceux qu'on connaît, les Netflix, les Amazon Prime, etc. Mais il y en a un, de niche, qui est en train de faire un carton en France, Emmanuel.
Oui, alors.
Et qu'on connaît un peu moins, en tout cas nous.
Oui, nous, moi je connaissais pas pour le coup, donc j'ai découvert aussi. Donc effectivement, il y a des plateformes spécialisées. Il y en a trois grandes en fait en France. Hein. Il y a Crunchyroll d'un côté, ADN et puis Wakanim. Wakanim en fait qui appartient à Sony Pictures depuis quelques temps. C'était une société française qui a été rachetée et qui propose en fait tous les dessins animés manga qui sortent au Japon le lendemain de leur diffusion pour éviter le piratage.
C'est une super bonne idée parce qu'on sait que c'est une industrie...
qui est fortement piratée.
Qui est fortement piratée, qui est très populaire, au-delà des frontières japonaises. Hein, y a des fans de manga partout dans le monde.
Oui.
Et donc là, avec Wakanim, on a accès en fait au meilleur du manga... Très très vite.
Et surtout les dernières saisons au Japon. Et il se trouve qu'il y a eu un gros succès au Japon qui s'appelle Demon Slayer, donc un nouveau manga, qui a boosté les abonnés sur la plateforme Wakanim. Hein. Ils m'ont dit qu'ils avaient multiplié par 3 le rythme d'abonnés payants sur leur plateforme depuis l'arrivée de ce manga. Ce manga donc, qui est aujourd'hui au cinéma au Japon, qui a enregistré 150 millions de dollars en 10 jours d'exploitation, c'est un record historique au Japon, on n'a jamais vu ça. Alors certes, il n'y a pas de blockbuster américain en salle, donc ça aide aussi. Mais malgré tout, c'est un énorme carton. Wakanim a les droits pour la France et essaye de voir quand est-ce qu'il pourrait être distribué dans les salles françaises, probablement en 2021. Et dans le même temps, cet animé-là, en fait, cartonne en manga sous forme papier sur le marché français. Il est rentré dans le top 10 des meilleures ventes cette année. Alors, il faut savoir que le marché des mangas papier, généralement, est très dynamique sur le marché français. L'an dernier, il s'en est vendu 19 millions d'exemplaires. C'était quasiment la moitié du marché de la BD. Mmh. Et cette année, malgré le confinement, on est déjà à plus de 14 millions de mangas vendus à la fin septembre, en forte croissance, plus de 11%, malgré le premier confinement. Alors, on va voir ce que le second confinement va avoir comme effet sur ces mangas-là. Et notamment porté par Demon Slayer, mais pas seulement. Hein, il y a toujours les One Piece, que certains connaissent, par exemple, les Dragon Ball, qui continuent bien de se vendre, les Naruto aussi, même si c'est un peu en fin de vie. Mais voilà, et puis My Hero Academia. Donc voilà, toute une série de mangas qui fonctionnent très très bien en France. La France et le Japon, sur le manga, sont des pays qui sont assez proches.
Bien sûr, on le voit étonnamment. Avec hors confinement, il y a des salons un peu partout qui cartonnent dans ce domaine-là. Juste un mot, c'est 5 euros par mois, hein, Wakanim. Après, il y a des offres qui sont dégressives. Si on s'abonne, par exemple, sur un an, on tombe à 50 euros, donc on gagne 2 mois. Donc voilà, c'est plus abordable, on va dire, que les services de streaming... traditionnel, on va dire.
Alors que dernier point, Wakanim, par exemple, une fois qu'ils ont l'exclusivité d'une série, après, ils la vendent, et donc ils la vendent notamment à Netflix.
C'est ça.
Et donc Netflix...
C'est pour ça que Netflix a un catalogue de mangas, quand même, qui était assez important. Hein.
Voilà, exactement, notamment via Wakanim et Sony, indirectement. Et du coup, après, ça draine une nouvelle population beaucoup plus large, qui après peut se diriger vers ces plateformes plus spécialisées.
Les fans hardcore s'abonnent à Wakanim, et
c'est
ceux qui,
connaissent pas, ou
peuvent attendre l'arrivée sur Netflix.
Exactement,
en fait.
C'est une espèce de chronologie des médias dans les services de SVOD.
Mais même sur Amazon Prime Video, on commence à voir pas mal un catalogue de mangas important. On voit que c'est une frange de la population qu'il faut chouchouter.
Exactement.
Et voilà. On termine avec la mairie de Vincennes,
ouais.
qui était victime.
Ça fait rêver.
Ça fait rêver. Mais oui, bah attendez, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, de temps en temps, il y a des trucs un peu moins brillants.
Exactement.
Mais cela dit, Vincennes, c'est très sympa. Hein.
Ouais.
Voilà, il y a son bois, il y a plein de choses intéressantes. Et la mairie de Vincennes a été victime d'une cyberattaque.
Oui, exactement. Une attaque a priori au rançongiciel. Hein. Donc, vous savez, c'est ces logiciels malveillants qui viennent s'installer sur les ordinateurs et les serveurs, qui les bloquent et qui demandent en contrepartie du déblocage une rançon payable généralement en bitcoin. Donc là pour l'instant la rançon n'a pas été demandée, mais en tout cas j'ai appelé la mairie ce matin, ils étaient encore bloqués, ils ont juste une ligne téléphonique fixe qui fonctionne, mais tout le reste est en rade.
C'est incroyable.
Donc voilà, c'est bloqué.
Quand même la téléphonie sur IP est tombée en rade.
Ah bah justement, c'est la téléphonie sur IP qui tombe en rade pour le coup, puisque ça passe par Internet, ah ouais. Les serveurs. Donc effectivement, ça, les machines, donc ça entrave en fait tout ce qui est administratif.
Et surtout en cette période de confinement où on imagine que le numérique est encore plus présent, c'est
oui,
vraiment un gros problème.
C'est un
hein.
gros problème. Et de ce que j'ai compris, d'autres mairies ont subi des attaques depuis le début de cette semaine. Parce que c'est généralement, alors c'est peut-être plus facile d'attaquer une mairie puisqu'ils sont pas forcément disons en pointe au niveau de sécurité informatique, même s'ils ont fait, ils se sont beaucoup améliorés. Et du coup, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, visiblement, est intervenue au niveau de Vincennes pour leur donner un petit coup de main. Donc voilà, la vague de ransomware revient en même temps que le confinement. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, donc faites attention puisque ça peut aussi toucher les particuliers,
oui.
ça touche des entreprises et puis on voit aussi des services publics.
Oui. Les ransomware qui peuvent arriver, comme tu le disais, évidemment, alors ce sont les entreprises qui sont visées le plus, mais parfois des particuliers,
oui. hein,
tout simplement, on ouvre un mail, on télécharge un mauvais logiciel, et puis on se retrouve avec un ordi qui est complètement pété, qui ne sert plus à rien.
Donc faites des sauvegardes, faites beaucoup de sauvegardes,
bien sûr.
Pour ne pas payer la rançon,
ouais.
Parce que donc les forces de l'ordre demandent de ne pas payer, parce que derrière c'est des groupes criminels généralement, enfin on ne sait pas où va l'argent.
Et plus les gens payent, plus en fait on alimente ce modèle économique.
Exactement. Donc voilà.
Et on en parlait des rançongiciels il y a quelques semaines de cela avec notre invité hein, Benoît Grunenwald, qui est un expert en cybercriminalité chez Izet et qui nous expliquait justement ce qu'il fallait faire
oui.
ou ne pas faire pour éviter les rançongiciels. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci François.
Emmanuel Paquette, donc journaliste à l'Express, pour terminer cette première partie du Club de la Presse IT. Toi qui suis évidemment l'actualité de la tech au quotidien, tu connais sans doute le constructeur Vivo.
Oui.
Ça y est, Vivo se lance en France d'une manière assez importante, on va dire, hein, avec des moyens somme toute assez ambitieux. Quelle est la stratégie de ce nouveau constructeur de smartphones ? Est-ce que finalement ils n'arrivent pas un peu trop tard alors qu'il y a une multiplication aujourd'hui des marques de smartphones ? On en parle avec mon invité Jean-Philippe Ladoux, qui est le vice-président de Vivo. Il a été fraîchement nommé, il va nous raconter tout ça dans quelques instants. A tout de suite donc pour De quoi je me mail, la suite.
De quoi je me mail sur RMC et 01TV. RMC 01TV, François Sorel, De quoi je me mail.
Nous voilà de retour, De quoi je me mail, l'actu des nouvelles technologies, le dimanche matin, vous le savez, à la radio sur RMC, puis en vidéo sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube 01tv, et peut-être êtes-vous en train de nous regarder tranquillement installé sur votre canapé, via la télé sur les box. Merci d'être là en tout cas. Je vais vous faire découvrir maintenant une nouvelle marque de smartphone. Vous connaissiez Xiaomi, vous connaissiez Samsung, vous connaissez Oppo, vous connaissez Realme, on va pas tous les citer, bien évidemment, après il y a les ténors, hein, Apple, etc. Eh bien, un nouveau constructeur, originaire de Chine, arrive ici en France, il y a quelques jours à peine, et on va le découvrir ensemble, il s'agit de Vivo. Vivo qui est un constructeur qui n'est pas un rigolo hein, dans le monde du smartphone. Il faut savoir que c'est l'un des cinquième ou sixième constructeurs de smartphones au monde. Hein. 5 ou 6, tout dépend de la période et puis du comptage. Très bien placé en Chine. Il vend énormément aussi de smartphones en Inde. Et donc il arrive en France et Jean-Philippe Ladoux est le vice-président de Vivo France et c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Ladoux.
Bonjour François.
Et merci d'être avec nous.
Ben, merci de m'avoir invité.
Voilà, c'est fraîchement arrivé en France.
Tout
donc.
À fait, il y a quelques jours.
Voilà. Enfin, pas vous, parce que vous êtes en France depuis très longtemps, mais en tout cas, la marque Vivo
Absolument.
Arrive en France. On va découvrir cette marque. Vous allez nous expliquer un petit peu l'histoire, l'ADN de Vivo, et puis aussi les nouveaux smartphones qui arrivent en
Bien
France.
Sûr.
Là, hein. C'est quand même un événement d'avoir une nouvelle marque ouais. de smartphone. Mais avant de rentrer dans le détail, Jean-Philippe, pour être un petit peu poil à gratter, il n'y a pas trop de constructeurs de smartphones en ce moment, un peu partout dans le monde et notamment en France. On a l'impression que tous les 6 mois, il y a un nouvel arrivant, un nouvel entrant et souvent un constructeur chinois.
Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu une vague d'arrivées sur le marché français ces derniers temps. Mais vous savez, chez Vivo, on a tendance à dire « don't be afraid to be late ». Ça veut dire « n'aie pas peur d'arriver un peu après ». Et en l'occurrence, bah, vous l'avez très bien dit dans votre introduction, on est le 5e constructeur de téléphonie dans le monde, avec une très forte présence en Asie. On est par exemple numéro 2 en Chine,
sur notre numéro 2
marché
en Chine.
Domestique, tout à
D'accord.
fait. On est numéro 2 en Inde, en 2020. On est numéro 1 en Indonésie, on est numéro 2 sur les pays d'Asie du Sud-Est. Donc gros succès en Asie. Donc il est temps maintenant pour nous de suivre notre chemin,
de continuer à s'étendre. De vous émanciper
Exactement.
Et d'attaquer l'Europe.
Et l'Europe est notre marché stratégique avec la France comme pays prioritaire.
Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, à la rentrée, Samsung était numéro 1, hein, des vendeurs de smartphones. Après, on a Huawei, Xiaomi, Apple, et vous êtes derrière Apple, hein, Vivo. Hein.
Tout à fait.
C'est quand même incroyable.
Tout à fait. Mais pour vous expliquer, en fait, c'est qu'on n'est pas encore évidemment connu en Europe. On a lancé il y a quelques jours. Mais par contre, nos innovations sont connues. Si je vous parle, par exemple, de Pucifi intégré dans un smartphone, si je vous parle de lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller son smartphone.
Lecteur d'empreintes digitales dans l'écran.
Dans l'écran, tout à fait.
Vous étiez le premier constructeur, je m'en souviens, on avait découvert ça au Mobile World Congress ou au CES de Las Vegas, je ne me souviens pas, il y a quelques temps de cela. Vous étiez le premier constructeur à intégrer un capteur d'empreintes dans l'écran.
Tout à fait.
Et qui après a été, on va dire, reproduit chez d'autres constructeurs.
Adopté par l'ensemble des constructeurs. Tout à fait. Si je vous parle aussi de pop-up caméra, pour avoir une expérience immersive quand on va regarder par exemple Netflix sans avoir une encoche en plein milieu de son écran.
Donc
pareil, ça c'est Vivo.
En fait, quand on lance l'appli photo, il y a le petit pop-up.
Tout à fait.
Voilà.
Exactement.
Et c'était Oppo qui avait sorti ça en France en premier, je me souviens.
Exactement. Mais dans le monde, c'est une technologie qui a été créée et développée par Vivo. Et du coup, ces innovations nous ont permis vraiment d'avoir cette image en Asie très forte de créateur de tendance. Donc c'est ces tendances, ces innovations qu'on va amener maintenant sur le marché européen.
Alors expliquez-nous, est-ce que vous êtes cousin de cette grande firme BBK qui intègre Oppo, etc. Enfin Realme, Xiaomi, c'est très tentaculaire et très compliqué tout ça. Hein. Même moi, j'y comprends pas grand-chose.
Ouais.
Mais est-ce que vous faites partie en fait de cette mouvance et de cette famille?
Alors justement, on souhaite profiter de ce lancement européen pour vous expliquer exactement quelle est la situation, quel est le statut aujourd'hui. Juste pour vous parler de la genèse de l'histoire du groupe BBK. BBK, c'est un groupe qui a été fondé en 1995. Et il y avait 3 divisions. Une division communication, une division audio-vidéo et une division éducation. En 2001, ces divisions se sont scindées. Donc on est passé sur 3 entreprises indépendantes. Donc la division communication, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle Vivo, sachant que la marque Vivo a été créée en 2011. La division audio-vidéo, c'est Oppo. Et la division éducation est la seule division qui aujourd'hui porte encore son nom, BBK Education Electronics.
D'accord. Mais qui ont les mêmes actionnaires.
Et qui fait des jeux éducatifs. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vivo, on est une entreprise indépendante. On n'appartient à aucune société mère. On investit sur nos usines de fabrication. On a nos propres usines de fabrication. On en a 5 dans le monde. Donc, on fait nos produits. On investit dans nos centres de R&D. On a 9 centres de R&D dans le monde.
Vous avez des milliers d'ingénieurs.
On a plus de 10 000 ingénieurs.
10 000 ingénieurs qui travaillent simplement à la recherche et le développement.
Tout à fait. Tout à fait. Les technologies dont je viens de vous parler, voilà, c'est ces 10 000 ingénieurs-là.
Excusez-moi, je vous coupe. Ouais. Vous êtes en train de me dire que finalement, c'est vous qui créez l'innovation.
Tout à fait.
Et après, vous la redistribuez aux autres. Alors, par exemple, à Oppo,
parce qu'on parlait tout à l'heure du pop-up, indépendant.
De la caméra pop-up, par exemple.
Ouais.
C'est quand même amusant que vous nous dites que vous êtes le créateur de ce truc-là, et Oppo, qui, dans la légende urbaine, est un peu votre cousin, soit le premier à la sortir en Europe, cette caméra pop-up.
Après, vous savez, il y a une vraie compétition aussi sur tout ce qui est hardware. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'on est les seuls, etc., mais on est créateur de tendance.
D'accord.
Après, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est indépendant. On a, comme je vous l'ai dit, nos usines de fabrication, 5 dans le monde, on a nos centres R&D, 9 dans le monde, dans les grandes mégalopoles chinoises. On est une marque, entre guillemets, qu'on estime globale. Hein.
D'accord.
On a des centres de R&D à San Diego qui sont focusés
sur... vous êtes même aux US.
Tout à fait, sur l'intelligence artificielle.
Ouais.
On a un centre de R&D à Tokyo, qui se focus sur la caméra, l'appareil photo. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait aussi l'ADN de Vivo, hein, ce créateur de tendance pour amener des innovations, mais pas la course à l'innovation, pas l'innovation pour l'innovation, des innovations qui soient utiles. La technologie pour simplifier la vie des gens.
D'accord.
Mais... Or, généralement, on peut noter que parfois, les consommateurs finaux ont tendance à considérer que la technologie complexifie un peu les choses, peut-être compliquée à utiliser. Nous, les innovations qu'on apporte, c'est vraiment pour simplifier les usages.
Vous arrivez donc en Europe, hein, vous avez un siège social, je crois que c'est à Düsseldorf.
Tout à fait.
Düsseldorf, oui, voilà, c'est ça. Vous venez d'arriver en France. Absolument. Avec une équipe voilà, commerciale, vous êtes plusieurs dizaines déjà travaillés en France. Comment on attaque, en fait, le marché français? Je répète encore une fois ce que je disais tout à l'heure, avec malgré tout une concurrence qui est exacerbée. On voit que le marché du smartphone voilà, commence vraiment à se stabiliser, voire parfois, à certains moments de l'année, à baisser.
Ouais.
Comment vous positionnez justement et comment charmer maintenant les clients français?
Alors, c'est vrai que c'est un challenge hein, d'arriver sur un marché qui est considéré comme saturé, ultra concurrentiel. Après, pour ça... On va rester fidèle à notre philosophie, et c'est cette philosophie que je vais vous expliquer, qui a fait le succès de Vivo. Là, on s'est implanté déjà, et notamment en Asie.
En Europe, la France est le premier pays où vous arrivez, ou est-ce que vous arrivez massivement?
Ouais, on a lancé simultanément donc en France, en Allemagne, en Italie,
d'accord,
en Espagne, en Pologne.
Vous arrivez donc d'un coup
dans six pays
européens.
Tout à fait. Et le déploiement va continuer à se faire dans les semaines et mois à venir. Donc en effet, on est resté fidèle à notre philosophie qui est d'essayer de faire les choses bien dans le bon sens. Donc pour ça, déjà la première chose, c'est l'innovation. On va arriver, on va porter nos innovations, et il y en aura des nouvelles, je pense qu'on va en parler, sur le marché européen. Une fois qu'on sait, donc ça c'est le grand chapeau
Franchement, on peut encore surprendre les consommateurs qui sont presque blasés aujourd'hui.
Bien sûr. On sait
que tous les smartphones ont de très bons appareils photo, ont des très bons écrans, sont compatibles 5G. Aujourd'hui, vous pouvez encore les surprendre sincèrement.
Bien sûr. Par exemple, je vais vous parler de l'innovation qu'on va porter là dans le cadre de ce lancement européen. C'est le gimbal. Le gimbal, c'est un stabilisateur. C'est un stabilisateur qui vient du monde du cinéma. On y fixe sa caméra, donc pour les films, etc. Et ça permet d'avoir des images ultra stables.
Voilà, ultra stabilisées,
exactement.
Bien sûr.
Ouais. Et donc là, on apporte une prouesse technologique. C'est nos R&D qui ont travaillé sur ça. Et la prouesse technologique, ça a été de miniaturiser cet appareil qui vient du monde du cinéma dans une épaisseur de 4,5 mm et de l'intégrer au sein de notre smartphone X51 qui sera le flagship et qui va porter haut les couleurs de Vivo dans le cadre de ce lancement européen.
Alors, pour que je comprenne bien, le smartphone ressemble à tout autre smartphone, hein, voilà. Après, bon, le design a l'air très sympathique, on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça, c'est plutôt réussi. Sauf qu'à l'intérieur, votre caméra, en fait, il y a un gimbal.
Tout à fait.
Qui fait que la stabilisation est améliorée.
Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme un gros œil. C'est comme un gros œil qui bouge. Donc, vous avez un capteur qui bouge. Donc, par exemple, si je fais un mouvement sur la droite, le gros œil, ce gimbal stabilisateur, lui, va se déplacer sur la gauche pour compenser le mouvement.
D'accord.
Et en fait, il y a trois bénéfices consommateurs à ça. Le premier bénéfice consommateur, c'est quand vous prenez des vidéos. Elles vont être évidemment ultra stables et surtout quand vous bougez, etc. Le deuxième bénéfice consommateur, c'est les photos. Que vous soyez vous-même en mouvement ou que le sujet que vous êtes en train de photographier soit en mouvement, généralement, vous avez remarqué, il peut y avoir des flous quand ça se passe comme ça. Là, le gimbal viendra compenser vos mouvements comme le mouvement de votre sujet. Donc, photo ultra nette.
Et vous êtes les premiers à faire ça?
Alors, je ne dis pas qu'on est les premiers. En tout cas, c'est nous qui apportons cette innovation en Europe.
D'accord.
Le point principal aussi, et le troisième bénéfice consommateur, c'est les photos de nuit. Les photos de nuit, quand vous prenez une photo de nuit, il y a un temps d'exposition qui est très long pour capter la lumière.
Bien sûr.
Et du coup, généralement, vous bougez et ça fait des photos qui sont floues. Ben là encore, le gimbal va venir résoudre cette problématique qui était d'ailleurs un des vrais sujets de frustration des clients. On a interrogé à peu près, avant de se lancer, des milliers de consommateurs, 9000 consommateurs en Europe, 1500 en France. Et justement, on a pu voir que ces photos de nuit, c'était aussi un point de frustration.
D'accord.
Donc ça vient corriger ça.
Donc gimbal, une innovation, on va dire, propre à Vivo, en tout cas pour la France et pour l'Europe.
Tout à fait. Hein. On sait beaucoup maintenant, certains de nos concurrents commencent à travailler dessus.
Donc, oui, bien sûr.
Ça
va
risque d'être une techno et une innovation qui va se développer l'année prochaine.
L'idée, c'est être numéro un dans la course à l'innovation.
L'idée, Encore une fois,
comme je vous l'ai dit, utile, ouais, c'est ce que vous
c'est
disiez
l'innovation
tout à l'heure.
Utile. Encore une fois, la course à l'innovation, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les consommateurs finaux. Et c'est d'apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, dans ce cadre-là, on communique perpétuellement avec eux, on regarde ce qui ne va pas, et par rapport aux points qu'on peut améliorer, on apporte des solutions et donc de l'innovation.
Jean-Philippe Ladoux, pour revenir un petit peu à l'actualité du smartphone et prendre l'un de vos compatriotes, puisque vous êtes chinois, Huawei. Huawei est dans une situation très compliquée actuellement, avec, on le sait, toutes ces interdictions venues des US. On voit que Huawei est obligé finalement quasiment de se retirer du marché du smartphone en Europe, hein, puisqu'il n'a plus de service Google, il va avoir des problèmes de fourniture de puces, etc. Est-ce que justement vous arrivez à ce moment-là parce qu'il y a cette place de libre que Huawei est en train de laisser ?
Non, alors vraiment, absolument pas, si vous voulez. Encore une fois, Vivo, c'est une grande marque. Comme je vous l'ai dit, en Asie, on a déjà bien travaillé. Et comme toute marque, on poursuit notre développement.
Oui, c'est un lancement qui était prévu, en fait.
C'est un lancement qui était prévu. Vous imaginez bien qu'on ne lance pas comme ça. Ça fait des mois et des mois qu'on est dessus.
Ça fait un an et demi que Huawei est dans la panade, en fait.
Ouais, alors après, vous savez, les choses peuvent tellement bouger, etc. Nous, on ne fait pas de politique. Enfin, je ne suis pas là pour commenter, vous voyez, des sujets qui sont politiques. Nous, on est là pour, encore une fois, faire de Vivo un succès. D'accord. Sur le marché européen, avec tous les atouts qu'on a. Et par rapport à l'Europe, par exemple, dont je vous ai parlé d'innovation, mais ensuite, quand vous me demandez voilà, qu'est-ce qui va faire que vous pouvez réussir en Europe, que vous allez réussir. Au-delà de l'innovation, qui est évidemment notre ADN principal, il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis en place. L'approche pragmatique, dont je vous l'ai dit, ces milliers de consommateurs qu'on a interrogés sur la technologie, qu'est-ce qu'ils attendent de la technologie. Mais typiquement, oui pour la technologie, mais comme je vous l'ai dit, qui simplifie la vie. Donc ça veut dire quoi ? Si on se parle d'interface, par exemple, c'est une interface qui soit facile à appréhender, qui soit intuitive. Ils veulent des technologies sûres, fiables, faciles à utiliser, pour être clair.
Donc, alors, vous avez travaillé l'interface d'Android, parce qu'évidemment, vos smartphones sont sous Android.
On a adapté nos produits au marché européen,
d'accord,
au goût des consommateurs européens. On a adapté nos produits, et du coup, on arrive avec une expérience Vivo Android qui sera basée sur Android Stock. Donc, ça veut dire Android Stock,
oui, c'est l'Android pur, on va dire.
Qui est plébiscité par les consommateurs finaux.
D'accord.
Et du coup, c'est du pur Android, exactement. Et du coup, c'est une interface qui est élégante, qui est épurée et qui est très intuitive. On aura la possibilité, du coup, d'offrir l'ensemble des applications et des services Google aux consommateurs finaux.
C'est la question que j'allais vous poser. Pas d'interdiction de la part du gouvernement américain. Vous vivez votre vie et
nous,
tous les services. Voilà.
On arrive en Europe avec Google. C'est un gros, gros partenaire pour nous. On a justement en plus adapté, comme je vous l'ai dit, notre interface avec de l'Android Stock. Donc on mise à fond sur Google, sur les applications Google, sur les services Google qui sont plébiscités encore une fois par les consommateurs finaux.
Vous vous positionnez comme étant un constructeur haut de gamme, hein, de smartphone haut de gamme.
Tout à fait.
On peut faire comment dirais-je, vous jouez dans la cour des Samsung, des Galaxy S, enfin toute cette gamme-là, c'est-à-dire que vous voulez vraiment prendre des parts de marché aux constructeurs qui font des smartphones haut de gamme aujourd'hui.
Nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est encore une fois, on arrive en toute humilité. Hein. On est sur un marché, on doit faire nos preuves, donc c'est l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, on a la chance dans le cadre de ce lancement d'avoir de nombreux partenaires de lancement qui nous suivent. Donc on a déjà d'ailleurs bénéficié d'une forte visibilité et ça va continuer, ça va s'accentuer.
Des partenaires, vous voulez dire des partenaires commerciaux ?
Des partenaires commerciaux, donc je pense à Fnac, Darty, Boulanger.
Donc toutes ces grandes enseignes distribuent vos produits ?
Tout à fait. On a Fnac, Darty, Boulanger côté spécialiste. On a déjà lancé avec Carrefour, Auchan, on va lancer avec Leclerc dans quelques jours, Système U, donc côté la plutôt grande distribution, ce qui nous permet aussi d'assurer un maximum de visibilité et notoriété à la marque. On est chez les pure players, comme par exemple Cdiscount, avec un gros partenariat, et on est évidemment aussi chez les opérateurs, les consommateurs pourront aussi acheter du Vivo avec des subventions opérateurs, parce qu'on est en exclusivité pour ce lancement chez Bouygues Télécom en ligne.
Mais vous arriverez chez les autres opérateurs, Orange, SFR, Free...
On a déjà bien sûr initié des relations avec eux, on discute, et donc j'espère bien que dans les mois à venir, enfin semaine, mois à venir, on sera en mesure vraiment d'être présent partout, encore une fois, pour offrir la possibilité aux consommateurs finaux de nous trouver, peu importe leur opérateur.
Juste une petite question, parce que je trouve ça passionnant. Comment lance-t-on une marque inconnue dans un domaine aussi, je le disais, encombré que le smartphone. On voit que vous poussez l'innovation, très bien, oui. Mais bon, Vivo, pour l'instant, voilà, ça évoque rien aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de la pub, quelles sont les différentes tactiques là, que vous mettez en œuvre pour que justement les gens découvrent ce que vous faites ?
Alors déjà, bon, faut bien travailler déjà. Faut mériter la confiance de ses partenaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est être impeccable sur tout ce qui est logistique, sur tout ce qui est service après-vente, sur tout ce qui est formation des forces de vente.
Pour tout ce qui est SAV, vous avez, comment vous faites là par exemple ? J'achète un Vivo, il tombe en panne, comment ça se passe ?
On a un centre de réparation en France.
En France, d'accord.
Qui travaille avec les acteurs du marché, hyper solide. Donc voilà, ça nous permettra de réduire à fond les délais pour les réparations.
Et je peux avoir quelqu'un au téléphone qui...
On a une hotline aussi, d'accord. Pareil, on s'est associé avec une hotline, c'est en France. Donc on fait travailler aussi les Français, clairement, et c'est des gens hyper sérieux qui avec des délais de réponse qui sont top, on est déjà dans ces statistiques-là. Donc il n'y a pas de sujet, ensuite c'est l'expérience bien sûr en magasin, la recommandation des forces de vente, donc on doit être au plus près des forces de vente, donc c'est ce qu'on s'attelle à faire avec notre équipe terrain. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire connaître ? Bien sûr des partenariats, c'est important. Et donc par rapport à ça, eh bien on souhaite, et d'ailleurs on a signé, avec un partenariat hyper intéressant avec l'UEFA sur l'Euro de foot. Donc on est le smartphone officiel de l'Euro de foot. C'est hyper important parce que c'est des événements qui sont fédérateurs, sont vraiment générateurs d'émotions positives et donc on va pouvoir aussi vibrer avec nos clients à l'Euro de foot 2020. On est aussi le smartphone officiel de l'Euro de foot en 2024. Donc l'Euro de foot 2020, il se joue l'été prochain, bien sûr. Et on est aussi partenaire de la Coupe du Monde. Donc globalement, tous les événements les plus populaires sur les prochaines années, ça sera associé avec Vivo Smartphone.
Ce sont des événements en plus mondiaux, hein, donc est-ce qu'on
européen,
peut y mettre...
mondiaux, tout à fait.
Voilà, c'est ça. L'euro, donc c'est un grand rendez-vous. J'imagine que donc là, vous mettez le paquet pour que les gens... On va dire que le début de l'histoire de Vivo, ce sera à l'occasion de l'Euro 2020, à votre avis ? Que le grand public découvrira votre marque.
Alors l'idée, c'est on y va step by step. C'est vrai que sur cette fin d'année, par rapport à notre ADN et puis par rapport aussi à ce qu'on peut faire dans ce contexte qui est compliqué, l'idée bien sûr, c'est avant tout d'avoir la légitimité des amoureux de la tech, des amoureux de l'innovation. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va être présent partout. Donc on a déjà. Mais ça va s'accentuer une grosse visibilité dans les catalogues de la grande distribution sur la fin d'année, avec des Fnac, Darty, Boulanger, une forte présence aussi sur la recommandation des technos, l'innovation, de l'expérience en magasin. Donc du coup, ça, c'est des choses qu'on fait et qui vont nous permettre, petit à petit, d'accroître la notoriété. Ensuite, on y va step by step, encore une fois, en toute humilité, on n'a pas l'ambition, là, d'ici les deux mois, de dire ça y est, on est numéro un. Non, c'est montrer qu'on sait travailler. Et bien sûr, l'euro sera aussi une grande étape.
Un accélérateur, on va dire.
Et un accélérateur, bien sûr, de notoriété. D'ici là, on peut être... on est très digital, on est une marque jeune. Encore une fois, Vivo, ça a 9 ans, la marque en tant que telle. Donc, on est très digital. Donc, évidemment, sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté autour de notre marque, des amoureux de la tech, de l'innovation, etc., c'est bien sûr quelque chose d'important. Et l'euro, bien sûr,
oui, sera le
fort accélérateur, comme vous dites.
Vous parlez beaucoup d'innovation. Quand on regarde un petit peu ce que font vos petits camarades, on voit que Samsung, qui est, on va dire, la locomotive de l'innovation depuis de nombreuses années, on le sait, mise beaucoup sur les smartphones pliables, par exemple, avec de grands écrans pliables. Est-ce que vous avez ça, vous, en rayon ? Est-ce que ça fait partie d'une des stratégies de cette innovation dont vous parlez ?
Aujourd'hui, on n'est pas encore à se dire qu'on va commercialiser un smartphone pliable. On est encore une fois plus sur des... On n'a pas encore, si
mais
vous voulez, chez Vivo...
C'est dans les tiroirs ?
Oui, enfin, ouais, c'est dans les tiroirs. Pas pour le... Enfin, je n'ai pas de visibilité, pour être très clair, sur ce sujet-là, en tout cas pour 2021. Le jour où on jugera clairement que c'est une attente forte des consommateurs, et bien sûr qu'on est prêt, nous aussi, à commercialiser à grande échelle, je pense
oui,
qu'on
bien
ira.
Sûr.
À présent, c'est quand même très niche. Donc, bien sûr, on est là pour porter l'innovation. Mais si vous voulez, nous, là, on est plus en train de travailler sur des innovations, par exemple, qui sont vraiment utiles à tout le monde, là. Je pense, par exemple, à la charge filaire 120 watts. La charge filaire 120 watts, en bénéfice conso, c'est juste génial. Vous pouvez recharger votre téléphone en 15 minutes. Je pense aussi...
15 minutes, je recharge mon téléphone à 100%.
15 c'est minutes sur la charge filaire 120 watts, 100%. Ouais.
D'accord.
Par exemple, on travaille aussi sur la charge sans fil, 60 watts. On travaille sur le zoom continu. Vous savez, quand vous passez là d'un zoom x2 à un zoom x5, vous êtes obligé de changer de capteur, là, le zoom continue. On a une expérience photo comme sur un vrai appareil photo avec un
objectif. Quand vous dites que vous y travaillez, c'est que ce n'est pas encore arrivé dans les smartphones, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines ou les mois qui viennent.
Alors ça, c'est présenté aussi. Vous savez qu'on a, on a ce qu'on appelle un Apex, qui est un concept phone qu'on présente chaque année.
Oui, qui est un peu la vitrine technologique
de ce que vous
faites. La vitrine
technologique de notre savoir-faire, de tout ce qu'on sait faire de mieux. Et ensuite, quand on juge que ces technos sont prêtes, eh bien, on les décline sur nos gammes pour tout le monde.
Les objets connectés, parce que souvent, on voit que la stratégie d'un constructeur de smartphone, c'est d'avoir évidemment des smartphones, mais aussi des objets connectés. Alors, des accessoires audio, des caméras, enfin, plein de choses comme ça. Quelle est la stratégie de Vivo dans ce domaine?
Bien sûr, à terme, on a comme ambition de proposer un écosystème global aux consommateurs finaux européens, bien sûr. Là, pour le lancement, on est très pragmatique, encore une fois. L'idée, c'est de gagner la légitimité sur les smartphones et ensuite de proposer
un écosystème avec
des... Un écosystème, et par exemple, là, on va rester sur le True Wireless, par exemple. C'est important. Dans le cadre du X51, là, on offre justement un package, un bundle, ce qu'on appelle bundle, avec le X51 et le True Wireless offert d'une valeur de 129 €. Voilà, c'est des choses qu'on fait. On arrive bien sûr avec des accessoires, tout ce qui est cover and co, la basique. C'est aussi hyper important pour les consommateurs finaux. Et step by step, bien sûr, on va étendre l'idée à terme. On verra suivant la maturité.
En Chine, par exemple, Vivo fait à toute une panoplie d'objets connectés.
Tout à fait. On a déjà communiqué sur des montres, etc.
Qu'est-ce que fait Vivo en Chine aussi, à part les smartphones? Vous faites des télés aussi? Enfin, c'est quoi? Ça va jusqu'où?
Alors vraiment, on est une marque de smartphone, donc si on se projette à 5 ans, on a vocation aussi à se lancer dans l'écosystème global de l'électronique grand public. D'accord. Aujourd'hui, vraiment, et c'est ce qu'on essaie de plutôt très bien faire, vu les succès qu'on a rencontrés et les 370 millions d'utilisateurs qui aujourd'hui aiment Vivo, c'est vraiment le smartphone et l'écosystème.
Un mot sur le téléphone que vous sortez là, en France. Donc, c'est celui qu'on voit derrière nous, hein, je pense, avec donc pas mal d'innovations. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce nouveau smartphone? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Ce smartphone, on en a parlé, il intègre le gimbal, le stabilisateur. Donc, ce que je peux leur dire, c'est que pour toute personne qui aujourd'hui a des problématiques sur ses photos de nuit, qui veut ce qui se fait de mieux en termes de stabilisation.
D'accord.
Voilà. Gimbal. Le téléphone, c'est fait pour lui.
Gimbal, supercharge.
Supercharge, 5G.
D'accord, 5G.
5G, ultra fin, moins de 8 mm. Un super design, super dos, anti-trace de doigts, c'est en verre. Par contre, anti-trace de doigts, anti-scratch. Donc vraiment, vraiment un téléphone hyper premium, magnifique.
Qui est vendu combien?
799 €.
D'accord.
Donc, on est sur un prix...
Voilà, pour une marque qui n'est pas connue, c'est un challenge quand même. Est-ce que les consommateurs français qui ne vous connaissent pas, alors qu'ils vous découvrent là peut-être aujourd'hui, il y a d'autres... Évidemment, vous avez d'autres moyens de vous faire connaître. Mais est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à mettre 800 € quasi pour un smartphone d'une marque qu'ils ne connaissent pas?
Ceux qui seront intéressés par cette expérience photo assez extraordinaire, vraiment bluffante, oui. Ensuite, pour être très clair... Ce produit a vocation à asseoir notre légitimité et notre notoriété de marque. Ensuite, on lance aussi, en parallèle, une série qui s'appelle série Y. Et là, on est vraiment au cœur des volumes. Globalement, 54% des smartphones qui se vendent en France, ils sont à moins de 300 €. Et du coup, là, on va vraiment venir s'intégrer sur ce price point entre 150 et 300 € avec trois produits qui sont des produits ultra compétitifs, 4G, et qui c'est vraiment les bons produits au bon positionnement avec les bonnes fonctionnalités. Donc on va se parler fast charge aussi, 33 watts, 18 watts suivant les références, mais en tout cas on est dans des batteries de 5000 mAh, de la fast charge, le top vraiment par rapport à ces prix-là,
dans
le
votre
top
objectif,
de ce qu'on peut attendre.
Voilà, l'objectif c'est que vous soyez dans le top du meilleur rapport qualité-prix.
Exactement,
c'est ça.
Exactement. Voilà, le rapport qualité-prix, et ça c'est important en effet pour une marque qui arrive, aussi au-delà de l'innovation, etc., de pouvoir dire avec Vivo, vous avez un super rapport qualité-prix et surtout des produits qui répondent aujourd'hui aux besoins des consommateurs finaux qu'on a interrogés.
D'accord. Voilà, Vivo, une nouvelle marque qui arrive donc en France et en Europe, un nouveau chemin. En tout cas, merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Ladoux de nous avoir fait découvrir cette marque. Et on vous souhaite bon vent dans cette guerre du smartphone. Vivo donc, pour terminer ce De quoi je me mêle. Merci d'avoir été avec nous comme chaque week-end. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la fois à la radio, le dimanche sur RMC, puis évidemment sur 01 TV. Portez-vous bien, soyez prudents et à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.